Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle des troubles de la fécondité d'origine transgénérationnelle. Autrement dit, des mécanismes inconscients en lien avec l'histoire familiale qui peuvent bloquer la fécondité. D'abord, quelques précisions. Il est largement admis aujourd'hui, y compris dans les services d'aide médicale à la procréation, que l'infécondité a des ressorts psychiques et que bien souvent, les causes physiques et psychiques sont étroitement liées. Il me semble important de rappeler aussi en préambule qu'il y a une implication égale de l'homme et de la femme dans l'infécondité psychique, ce qui est parfois un peu oublié. Sachez que l'infécondité peut avoir des causes personnelles en lien avec l'histoire de vie de la femme ou de l'homme, sa petite enfance et ses traumas notamment, ou encore en lien avec la dynamique du couple lui-même. Mais je ne m'attarderai pas sur ces aspects. Ce que je vous propose dans cet épisode, ce sont des pistes de réflexion, des fils à tirer pour comprendre l'origine transgénérationnelle de l'infécondité, qui est souvent très complexe et multicausale. L'idée n'est pas de proposer une approche simplificatrice ou réductrice. Il n'y a pas de réponse toute faite aux troubles de la fécondité, d'autant que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets d'une personne à l'autre. L'objectif est plutôt d'ouvrir certaines portes, de vous inviter à aller explorer certaines pistes en lien avec votre histoire familiale. Alors, qu'est-ce qui peut entraver la fécondité dans cette histoire familiale? À un premier niveau, les relations au sein du système familial peuvent être à l'origine de troubles de la fécondité, et plus particulièrement la relation à la mère, comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent. Lorsque cette relation est marquée par de profondes souffrances, certaines femmes ont une peur, plus ou moins consciente, de devenir mère à leur tour et de répéter ce qui s'est joué avec leur propre mère. Idem pour les hommes dans leur relation avec leur propre père. Dans ce cas-là, les femmes expriment souvent leur peur d'avoir une fille et les hommes leur peur d'avoir un garçon. J'ai rencontré aussi parfois des femmes qui avaient été traitées comme des éternels enfants par leur mère et qui ne s'autorisaient pas à devenir mère elles-mêmes, par peur inconsciente de ne plus être la fille de leur mère, de perdre leur statut d'enfant. C'est parfois la mère qui maintient son fils ou sa fille dans son statut d'enfant, et les causes sont souvent à chercher dans sa propre histoire avec ses parents, mais c'est parfois le jeune homme ou la jeune femme qui attend toujours de sa mère qu'elle devienne la bonne mère qu'elle n'a pas été pendant leur enfance. Comme le disent Joël Desjardins-Simon et Sylvie Debras dans leur ouvrage « Les verrous inconscients de la fécondité », les places de mère et d'enfant ne sont pas superposables dans la vie psychique. Elles doivent s'inverser au prix d'une épreuve de perte. Pour devenir mère, il faut supporter de n'être plus jamais une enfant. J'ai évoqué aussi à plusieurs reprises dans les épisodes précédents les enfants qui sont parentifiés dès l'enfance, qui deviennent les parents de leurs propres parents. Souvent d'ailleurs en lien avec l'histoire familiale sur plusieurs générations. Cette confusion des rôles et des places peut bloquer complètement l'accès à la maternité ou à la paternité. De manière générale, retenez que la fécondité peut être bloquée si la place de l'enfant est déjà prise dans le couple, que ce soit par un membre du couple, par un frère ou une sœur dont on s'occupe, ou par un parent. Dans son ouvrage « Les bébés de l'inconscient », la psychanalyste Sylvie Faure-Pragier cite également l'exemple des femmes qui sont en prise avec une mère toute puissante, en raison notamment de l'absence ou du retrait du père. Lorsque le souhait d'avoir un enfant est initié par leur mère, peut se déclencher une stérilité temporaire qui est un moyen pour ces femmes de se rebeller contre leur mère. Dans ce cas, c'est le retour du père dans le discours qui permet à ces femmes de se libérer de l'emprise psychique de leur mère et de renouer avec leur fécondité. Lorsqu'un couple a des difficultés à avoir un deuxième ou un troisième enfant, alors que tout s'est déroulé facilement pour le premier, il est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de la famille à cette place. Des rivalités de fratrie peuvent créer des blocages pour avoir l'enfant qui serait à la place du frère ou de la sœur avec lequel l'histoire a été difficile. Il arrive aussi que la place de l'enfant à venir soit celle d'un des membres du couple, le renvoyant ainsi à ce qui peut faire blocage avec sa propre enfance. Mais l'infécondité peut aussi être en lien avec une loyauté familiale, notamment dans la relation mère-fille. Par exemple, si la mère a fait plusieurs fausses couches et n'a pas pu avoir le troisième enfant qu'elle désirait tant, est-ce que la fille s'autorise à avoir l'enfant que sa mère n'a pas pu avoir ? Il arrive aussi que l'infécondité soit en lien avec l'histoire familiale sur plusieurs générations. En se penchant sur leur histoire, certaines femmes ou certains hommes réalisent que leur désir d'avoir un enfant s'accompagne paradoxalement d'une peur, inconsciente jusque-là, que l'arrivée de l'enfant vienne les enfermer ou les empêcher de vivre leur propre vie. Cette peur peut prendre racine, par exemple, dans toutes les situations où l'arrivée du premier enfant a été vécue comme un enfermement dans les générations précédentes. C'est le cas notamment pour les grossesses accidentelles qui ont mené à un mariage par obligation, à la va-vite, pour éviter la honte, et qui ont parfois forcé nos grands-parents ou arrière-grands-parents à passer toute leur vie avec un compagnon ou une compagne qu'ils n'avaient pas choisi. L'enfant peut aussi être considéré dans l'inconscient familial comme un empêchement, par exemple lorsque des grossesses imprévues sont venues interrompre des études ou une carrière professionnelle. Dans ce cas, le roman familial peut véhiculer la croyance, plus ou moins consciente, qu'avoir un enfant, c'est sacrifier sa vie personnelle. Des événements qui ont eu lieu pendant la première grossesse des femmes de la famille peuvent avoir été associés dans l'inconscient et créer des peurs d'être enceinte. J'accompagne parfois des femmes qui réalisent en se penchant sur leur histoire familiale que toutes les premières grossesses ont été vécues comme des catastrophes ou marquées par des événements douloureux pour leurs ancêtres. Grossesse précoce des filles-mères vécues dans la honte sur plusieurs générations, départ du mari pendant la grossesse, décès d'un père ou d'une mère au moment de l'arrivée du premier enfant. À ce sujet, au moment où la mère devient mère et le père devient père, ils renvoient leurs propres parents à la place de grands-parents, ce qu'on appelle l'étape générative. Et il peut être intéressant de regarder l'histoire de cette place. Qu'est-il arrivé à cette grand-mère ou ce grand-père ? Je rencontre parfois des familles où la place de grand-mère ou de grand-père n'a pu être occupée depuis plusieurs générations, chaque arrivée d'un petit enfant ayant été marquée par le décès d'un grand-parent. Il existe dans certaines familles la croyance que la naissance d'un enfant s'accompagne du décès d'un grand-parent, qu'une vie est reprise quand une vie est donnée, ce qui peut être un frein puissant pour la fécondité. De manière beaucoup plus invisible, les non-dits et les secrets autour de la maternité et la paternité dans l'histoire familiale peuvent créer des blocages inconscients. Je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode sur les secrets de famille. En deux mots, le secret émotionnel d'un parent crée une sorte de crypte dans son psychisme, un endroit où les émotions en lien avec le secret sont gelées. Et cette crypte génère une structure émotionnelle parasite dans le psychisme des générations suivantes, appelée fantôme. Ce fantôme peut ensuite se manifester sous forme de symptômes physiques ou psychiques dont l'infécondité peut faire partie, comme la trace dans le corps ou dans le psychisme du secret des générations précédentes. Plus le non-dit sera fort, plus le fantôme sera présent dans les générations suivantes. Et, j'ouvre les guillemets, l'infécondité peut surgir comme arrêt de la transmission d'un événement traumatique de l'histoire des grands-parents et des sentiments qui l'ont accompagné. Je ferme les guillemets. Comme nous le disent Joël Desjardins-Simon et Sylvie Debras. Parmi les secrets qui peuvent entraver la fécondité, attention, je le répète, il ne s'agit pas de conséquences systématiques. On trouve bien sûr les secrets de filiation, les secrets en lien avec l'inceste qui brouille l'ordre des générations et qui peut générer chez certaines femmes la peur d'avoir un garçon. On trouve aussi tous les secrets en lien avec les abandons d'enfants. Lorsque des femmes de la lignée ont été forcées à abandonner leur premier enfant, l'inconscient familial peut véhiculer une peur inconsciente que le premier enfant soit pris. J'ai ainsi accompagné une femme qui me disait avoir eu des peurs au moment d'avoir son premier enfant. Elle avait l'impression totalement inexpliquée qu'on allait le lui prendre. Et elle a découvert des années plus tard que sa maman avait eu un premier enfant hors mariage, que ses parents l'avaient forcé à abandonner. C'est parfois le fantôme de femmes mortes en couche dans les générations précédentes qui vient perturber la fécondité. Le psychanalyste Serge Tisseron donne un exemple très frappant de la manière dont ces peurs peuvent se transmettre de génération en génération, que j'ai déjà cité dans l'épisode consacré aux secrets de famille, mais que je ne résiste pas à vous reciter ici. C'est une femme qu'il consulte pour une phobie de la grossesse. Pendant la séance, elle explique que son papa lui racontait souvent la même histoire quand elle était enfant. L'histoire d'un petit chien qui avait avalé un parapluie. Un jour de pluie, le parapluie s'était ouvert dans son ventre et le petit chien était mort. En prononçant ces mots, le papa pleurait, imité par sa petite fille qui n'y comprenait rien. Des années après, devenue adolescente, elle découvrit que sa grand-mère paternelle était morte en accouchant de son père. Au moment d'avoir un enfant, la jeune femme avait relégué cette histoire au fond de sa mémoire, mais c'était sans compter sur son inconscient qui avait retenu qu'avoir un enfant, c'est mourir. Pour certaines femmes, c'est la mémoire d'accouchement traumatique dans les générations précédentes qui vient créer une peur d'accoucher, empêchant la fécondité. Parmi nos ancêtres, proches ou lointains, il y a des femmes qui ont été traumatisées par leur accouchement. Il faut garder en tête qu'à une époque pas si lointaine, les accouchements pouvaient être des épreuves terribles, avec une impossibilité ensuite d'en parler, parce que le trauma était trop fort, le sujet trop intime, et qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait absolument pas d'accompagnement de la souffrance psychique. Les mémoires de fausses couches des mères, grand-mères ou arrière-grand-mères peuvent aussi impacter la fécondité des femmes de la lignée. Elles se retrouvent d'ailleurs souvent dans les rêves des femmes qui ont un désir d'enfant. N'oublions pas que de nombreuses fausses couches sont vécues dans la souffrance par les femmes, qu'il s'agit d'un véritable deuil à traverser qui est rarement reconnu comme tel par l'entourage ou le monde médical, même si les choses commencent à évoluer de ce côté-là. On retrouve dans les générations suivantes la peur inconsciente de faire une fausse couche qui peut perturber la fécondité, des émotions de tristesse et un sentiment inexpliqué de perte qui émerge au moment où le désir d'enfant se manifeste. Les mémoires d'avortement mal vécues peuvent aussi venir encombrer la fécondité dans les générations suivantes, particulièrement lorsqu'ils ont été passés sous silence et se sont accompagnés d'une culpabilité de la mère. Il faut se rappeler qu'avant la légalisation de l'avortement, les femmes avortaient dans des conditions épouvantables, soit chez des faiseuses d'anges, avec ensuite très souvent des infections qui entraînaient parfois la mort, soit des avortements pratiqués à la maison, avec des produits injectés dans l'utérus qui créaient de graves brûlures, ou avec des aiguilles à tricoter ou un cintre, ou encore en ingérant des produits qui rendaient gravement malade. Donc dans les générations précédentes, l'avortement c'était presque toujours un traumatisme. Et bien sûr, il ne fallait surtout pas en parler, puisque l'avortement était puni pénalement. Il y a des femmes qui sont allées en prison parce qu'elles avaient avorté. Aujourd'hui, l'avortement est mieux encadré médicalement, mais reste encore souvent un trauma pour les femmes qui le pratiquent. Ce n'est jamais simple. Donc, quand on s'interroge sur ce qui peut encombrer notre fécondité, c'est important d'aller regarder ce qui s'est passé au niveau des avortements des femmes de notre famille. À ce sujet, dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents », le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier souligne que, et je le cite, « Quand une mère tente d'avorter sa propre fille, c'est une catastrophe dans l'ordre des transmissions féminines. Là où la mère doit soutenir sa fille dans sa fécondité, le mouvement inverse se produit. La mère transmet la mort pour sa fille. » Enfin, ce sont aussi bien sûr les fantômes d'enfants morts, décédés à la naissance, en bas âge ou même plus tard, qui peuvent entraver la fécondité dans les générations suivantes. Perdre un enfant relève de l'inacceptable. C'est toujours un trauma pour les parents, qui sont submergés, engloutis par la souffrance. Se crée alors bien souvent un non-dit autour de cette mort, parce que c'est trop dur d'en parler. Non-dit partagé par le reste de la famille pour préserver les parents endeuillés. Et c'est ainsi que se transmet dans l'inconscient familial une immense tristesse, bien sûr, je vous en ai parlé dans l'épisode sur le deuil, mais aussi, parfois, une peur inconsciente d'avoir un enfant pour les générations suivantes. Cette peur peut être agissante dès le premier enfant, c'est le cas par exemple lorsque les femmes de la lignée ont toutes perdu leur premier enfant depuis plusieurs générations. Elle peut aussi se manifester à la place qu'occupait l'enfant décédé, ce qui explique parfois des difficultés à avoir par exemple le deuxième enfant, alors que tout s'était bien passé pour le premier, puisque l'inconscient familial a retenu que le deuxième il meurt. Il arrive d'ailleurs que des fausses couches viennent symboliser la place de l'enfant mort dans les générations suivantes. De manière générale, comme le soulignait le psychanalyste Paul Racamier, les deuils gelés peuvent bloquer la fécondité. C'est parfois le décès de la mère ou quelqu'un qui a joué le rôle de mère qui empêche la venue de l'enfant. Mais certaines histoires de famille sont marquées par de multiples décès tragiques avec des deuils impossibles à faire qui se transmettent de génération en génération. Et lorsque la mort prend toute la place dans l'espace psychique, il n'y a pas de place pour donner la vie. Alors que faire si l'enfant se fait attendre? Je crois que la première chose à faire est de parler pour lever les non-dits. Parler avec ses parents de sa propre conception, parler avec ses grands-parents, revisiter l'histoire familiale en s'interrogeant sur la maternité et la paternité. Se faire accompagner par un ou une psychogénéalogiste ou psychanalyste transgénérationnel peut aider à mettre en lumière des zones d'ombre de l'histoire familiale et d'identifier quels sont les fantômes de cette histoire qui entravent la fécondité, de comprendre le sens qu'elle prend dans le psychisme, de recontacter ses émotions en soi pour s'en libérer. Attention, cependant, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, je vous ai présenté ici des origines possibles sous forme de catalogue, mais les causes sont souvent multiples et enchevêtrées les unes aux autres, comme une pelote qui serait constituée de plusieurs fils entremêlés. Je le redis aussi, cette mise au travail des transmissions de l'histoire familiale est nécessaire pour la femme comme pour l'homme, puisqu'un couple, ce sont deux inconscients qui se rencontrent, avec souvent une similitude ou une complémentarité des blessures transgénérationnelles. Mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion au sujet des blocages transgénérationnels de la fécondité. Pour ceux et celles qui voudraient approfondir cette question, je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Joël Desjardins-Simon et Sylvie Debras, intitulé « Les verrous inconscients de la fécondité ». Et vous trouverez comme d'habitude, en description de ce podcast, les articles et ouvrages sur lesquels je me suis appuyée. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.